Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une interview exceptionnelle, la chaîne guitare rebaptisée La Chaîne Basse, puisque je suis en présence du one and only Romain là-bas. Et Romain, comment est-ce que ça va bien ?
Ça va très bien.
Ouais.
Chaudement, chaudement ou correctement bien ?
Chaudement.
Ouais.
Ouais. Non, ça va super. Ouais.
La dernière fois qu'on s'était vu, en fait, on s'était croisé très brièvement au NAMM en janvier ou au Winter NAMM à Los Angeles. C'est Et vrai. Puis la fois d'avant, tu étais venu, c'était en avril ici, donc un peu plus d'un an maintenant. Donc quoi de neuf ?
Quoi de neuf ? Bah écoute, tout va bien. Un album avec Scott Anderson qui est sorti en juillet. Et pas mal de concerts aussi avec lui et prochainement, en septembre, octobre, même novembre, je crois.
Vous avez déjà fait des concerts après la sortie de l'album ou c'était plus des rodages de morceaux que vous aviez fait avant ?
On a fait quelques concerts en Italie au mois d'août.
Ouais.
Pour, voilà, parce qu'il y avait des dates, donc on y est allé, on a fait un petit peu la promo de l'album. Mais la vraie promo de l'album, elle se fait en Amérique du Sud et en Asie à l'automne, là, septembre-octobre.
C'est pas mal ça, aller passer l'automne comme ça en Asie. Et...
C'est pas mal, ouais, ouais c'est cool.
Ouais.
C'est cool.
Avec la banane d'enfer, bah ouais, c'est cool. Tu penseras à nous, quoi, voilà, qu'on sera ici sous la grisaille parisienne. Donc, bah, c'est quoi ton bilan de cet album ? C'est la première. Ça fait un moment que tu joues avec Scott, mais c'est la première fois que tu es impliqué sur un album ou je me trompe ?
Alors, impliqué sur un album, non. Être l'unique bassiste d'un album, oui.
D'accord.
Enfin. Avec un gars de cette envergure, on va
d'accord.
dire.
Mmh, ok.
Alors, c'est quoi ton bilan, là ? Donc, c'est pas encore quelques mois, c'est quelques semaines après la sortie de l'album. T'es content ?
Ouais,
on
ouais.
On sortira pas d'Internet, donc tu peux le dire.
Ouais, ouais, c'est super. On est fiers de ce disque. Ça a été long, parce qu'on avait commencé les enregistrements en janvier 2018. Il est sorti le 1er juillet 2019. Mais ouais, c'est un très beau disque. Très fier de ça et j'espère que ça va vous plaire.
Ouais.
Comment ça s'est passé l'enregistrement ? Il y a eu des moments où vous étiez tous les trois au même endroit ou c'était essentiellement du Dropbox ?
Non, on a fait ça ensemble. Après lui, il a refait toutes ses guitares tout seul chez lui au calme avec le temps qu'il lui fallait. Donc ça qui a pris beaucoup de temps aussi.
D'accord.
Parce que c'est un pépère assez exigeant et je le comprends. Puis quand on entend le résultat, c'est vrai qu'on se dit qu'il n'a pas fait ça en deux jours. Mais oui, on a été ensemble, il nous a coaché quand on a fait les prises de rythmique avec, avec Archibald. Et ensuite, moi j'ai refait des trucs à la maison qu'on s'est envoyé, j'ai refait des trucs avec lui aussi pour peaufiner tout ça.
Mmh, d'accord.
Parlons un petit peu, faisons la parenthèse matos tant qu'on est là. C'est quoi qu'on entend sur l'album ? C'est cette basse, c'est quoi ?
Uniquement.
Uniquement.
Uniquement cette basse.
Ok.
Il y a des petits... piège, mais ce n'est uniquement cette basse.
D'accord.
Et branché dans quoi ? Il y a des choses top secrètes ?
Non, directement dans la console. Une vieille Nive de je ne sais plus quelle année, mais assez ancienne et qui sonne plutôt pas mal.
D'accord.
Il y a un très beau solo de basse sur un album, un morceau qui s'appelle Syringe, donc seringue, j'imagine. Syringue. Comment ça se passe quand on veut faire un solo de basse sur un album de Scott Anderson ? On dit « Oh Scott, je verrais bien un solo de basse là ?»
Non, non, là, c'est lui qui dit qu'il faut qu'il y ait un solo de basse à cet endroit-là. Et j'étais chez lui pour faire ce solo. Et il m'a laissé dans sa pièce tout seul. Il me dit, vas-y, fais ton truc. Et après, on a trippé ensemble à choisir les meilleurs moments.
D'accord.
Mais c'est que de la basse qu'on entend à ce moment-là. Il n'y a pas une note de guitare.
Ouais, ouais. Ouais.
Alors qu'on dirait des fois, mais non, c'est que de la basse.
D'accord.
Je l'ai fait en plusieurs fois, j'ai fait un truc, une espèce de tapis sonore derrière et ensuite j'ai fait un solo et des petites ambiances, tout ça, c'est moi.
D'accord, bah c'est cool ça.
Ça doit être sympa quand le patron il te dit voilà, c'est le moment, là, c'est à toi.
Ouais,
je te
ouais.
laisse, j'allume les lumières, j'appuie sur le bouton en haut, je roule ma poule.
Un peu, c'est un peu ça, ouais. Bon après il supervise quand même, il dit ouais, bon là c'est pas terrible, tu peux faire mieux. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, j'espère.
Ouais.
Il y a un morceau plus d'obédience un peu jazzy qui s'appelle Satellite, où tu as aussi un solo de basse dedans. Il y a beaucoup de basse en fait dans cet album.
Oui, ouais. Désolé hein, pour tous ceux qui n'aiment pas ça, mais bon. Mais ouais, c'est vrai, c'est un bon petit morceau.
Ouais.
Ça fait du bien, un morceau un peu plus swing, ça change.
Ouais.
Oui, en tout cas, j'ai eu bien du plaisir à écouter cet album. On retrouve beaucoup, évidemment, le son de Scott Anderson. Hein. On fait pas, enfin, il s'est pas refait, mais il y a y a un beau son de groupe, je trouve, dans le, il y a une belle dynamique les morceaux, parce que des fois, bon, c'est de la musique instrumentale, c'est pas du blues avec une structure harmonique 1-4-5 ultra évidente, donc il faut qu'il y ait de la matière, quoi, pour qu'on s'emmerde pas des fois sur des morceaux. Donc vous avez travaillé ça comment, la dynamique pour l'enregistrement?
Bah, en fait, je pense que c'est depuis qu'on joue ensemble, on a développé cette espèce de complicité qui le changeait du groupe qu'il avait avant, et on a développé ça presque naturellement. En fait, on ne s'est pas trop posé de questions, on jouait. Donc, il a composé cet album vraiment, je pense, pour ce trio-là, quoi.
D'accord.
Il l'a fait en pensant à nous, à ce qu'il pense qu'on peut jouer mieux que ce qu'il a fait au préalable. Mais c'était vraiment pour nous dans l'optique de ce trio-là, quoi.
D'accord. Et lui, il arrivait donc avec des compositions, enfin des partitions, des comment on appelle ça, des chord charts. Je sais même plus le dire en français. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ou comment ça s'est passé pour vous transmettre la musique?
Il nous a fait des maquettes avec des partitions bien bien précises, avec la structure, tout, les maquettes, pareil. Donc, c'est comme ça qu'on a bossé les trucs à la maison. Puis quand on est arrivé au studio, ben voilà, hop, avec un clic. Et lui, il jouait dans la cabine quand même de contrôle pour rendre ça un peu plus vivant pour nous, pour qu'on puisse un peu interagir. Mais comme je disais, il a tout refait après, mais je trouve pas que ça s'entende vraiment, même pas du tout d'ailleurs.
Non, quand on entend comme ça, on n'a pas, ça donne pas le côté surproduit des fois des albums qui ont été faits avec des mois d'écart, quoi.
Ouais, il avait vraiment, il faisait en sorte de faire des choses de proche de ce qu'il allait faire refaire après, quoi.
Ouais.
Il a pas trop dévié de ce qu'il avait en tête. Il est très très précis dans ce qu'il veut. Il sait vraiment, il est très fort pour ça.
D'accord. Et dans les maquettes qu'il vous avait envoyées, donc du coup, il y avait des batteries pum-chak et puis des basses boum-boum-boum, ou c'était, il y avait des directions créatives beaucoup plus précises que ça?
Non, c'était une maquette assez horrible en soi, parce que c'était du midi pourri, mais il avait fait des guitares par contre, ça, toutes les guitares, les parties étaient toutes là. Bon, il en a rajouté après, hein. Mais pour ce qui était des basses et des batteries, enfin non, j'exagère, mais il avait tout ce qui devait être joué tel quel, genre pendant les thèmes, les mélodies, tout ça, ou des passages précis, ça c'était bien écrit et joué par la basse midi. Mais après, tous les passages qui sont un peu plus vivants ou libres dans le disque, il nous mettait un pattern en boucle, mais il nous disait, voilà, vous faites ce que vous voulez à cet endroit-là, c'est juste sur les parties écrites qu'il faut vraiment respecter, quoi.
C'est quoi la ligne de basse, toi, dont t'es le plus fier, ou la partie de basse dont t'es le plus fier? Est-ce que tu peux nous la jouer ou la décortiquer peut-être un peu?
J'ai oublié, moi.
Bah écoute, j'ai le disque là pas loin, ouais. Si tu veux, tu pourras aller retravailler un peu.
Mais non, mais là, non, je t'avoue que j'ai un peu oublié parce qu'on les a pas encore joués en live, certains. Et mais il y en a une qui est un peu chiante à jouer, enfin, qui est un peu chiante à apprendre, à retenir. Mais c'est sur Syringe, justement, la ligne de basse, elle est un petit peu... Elle est un petit peu coquine, quoi. Mmh. Mais elle est sympa, et c'est vrai qu'il faudrait que je la réapprenne, parce que je pense qu'on va le jouer un de ces jours.
Non. Donc là, tu veux pas la jouer?
Mais je vais me planter, ça sert à rien de me ridiculiser.
Bon,
comme
alors
ça.
Une autre.
Il y en a une autre qui est sympa, c'est dans Primary Location, ça fait... Je me suis complètement vautré à la fin, mais c'est pas grave.
C'est joli quand même.
C'est presque ça, ouais. Mais c'était pas les bonnes notes.
D'accord.
Moi, je me souviens pas, tu vois. J'ai pas fait mes devoirs, c'est nul.
Ouais.
Pardonnez-moi.
Mais justement, c'était une question à 100 000 dollars. Donc, Archibald, qui est aussi français, il est de ce côté. Scott, il habite à Los Angeles. Donc, comment la relation de travail se passe avec Scott? Il vous appelle, il dit, bon, bah tiens, on joue demain à tel endroit. Il te donne un préavis. Comment tu gères ça d'un point de vue très pratico-pratique?
Oui, donc c'est des tournées, donc c'est organisé un minimum à l'avance, donc on sait pas, c'est pas du one shot dernière minute, quoi. Tant qu'ils viennent délai, déjà il faut 3 jours pour se remettre du jet lag, ouais. Donc donc non mais oui on a toujours des tournées, c'est rarement c'est que quand on est là-bas qu'éventuellement on a des petits trucs, mais sinon non, c'est toujours organisé là.
D'accord.
Depuis plusieurs semaines voire des mois.
Ouais, alors c'est ça un peu le sens de ma question. Du coup, toi, dans ta vie de musicien, tu sais que, bon, par exemple, là, de, je sais pas, de septembre-octobre, c'est Scott Anderson et tu peux pas prendre d'engagement par ailleurs, etc. Et enfin, c'est un peu ce genre de visibilité que tu peux avoir?
C'est ça, ouais, parce que bah, là, pour la tournée de septembre-octobre, on est au courant quand même depuis mars-avril. Donc ça va, ils nous donnent une tranche avec des options de date. Donc on a, voilà, on a le choix. Et alors, si on est déjà engagé sur des trucs, on leur dit, quoi. Parce que, voilà, des fois, on ne peut pas se désengager. Quand c'est un petit truc moins important qu'une tournée, évidemment, là, on fait à part des choses et on voit si on ne peut pas se faire remplacer ou des trucs comme ça. Mais ça va, on a quand même le temps de voir et ça va, les choses se confirment relativement vite. Donc on rate pas d'occasion de boulot, quoi.
D'accord. Et l'autre volet de ma question, c'est justement le travail par rapport à la mémorisation, jouer ces morceaux, ces structures qui ne sont pas toujours évidentes en live. Donc, une fois que tu l'as rebossé, maintenant que le disque est sorti, tu vas le stocker dans le disque dur et ça bougera plus jamais, ou tu es à chaque fois obligé de dépoussiérer tout ça?
Ça dépend des répertoires. Il y a des répertoires que j'ai appris il y a plusieurs années, je me souviens par cœur, parce que je les ai bossés, joués énormément. Scott, c'est à peu près pareil. Bon, après, on joue plus ou moins les mêmes morceaux régulièrement. Donc, et il y a quand même plutôt pas mal de concerts, en fait. Enfin, c'est assez régulier. Je veux dire, là, on a joué en octobre 2018. Ensuite, on avait joué un petit peu en janvier. Ensuite, on a joué tout le mois d'avril. On a rejoué un peu en juillet et un peu en août. Donc, non, pas en août, qu'est-ce que je raconte? On n'a pas joué en août cette année. Bref, en juillet, et là, on repart en septembre. Donc, c'est relativement régulier. Et puis, en fait, comme il veut pas qu'il y ait de partition sur scène, ça nous force à apprendre par cœur,
D'accord.
tu vois. Et bah, force de les jouer, ça rentre complètement. Puis, s'il se trouve qu'on joue pas tel morceau pendant un an ou deux, quand je vais le rebosser, ça va revenir vite, quoi. Ça, c'est pas trop un problème, la mémoire.
D'accord. Quand on s'était croisé très brièvement au Convention Center d'Anaheim, je pense que tu partais jouer au Baked Potato le soir même, c'est ça?
C'est possible,
Ouais,
oui.
ouais. Et tu avais déjà joué au Baked Potato? Parce que pour nous, de ce côté de l'Atlantique, le Baked Potato, moi, ça fait 4-5 ans que je vais au NAM. J'ai jamais eu encore l'occasion d'y aller parce que c'est à l'autre bout de la ville, tout ça. Enfin, c'est un club légendaire, donc ça faisait comment? Est-ce que c'était la première fois que tu y jouais et ça fait quoi?
Non, c'était pas la première fois. Ça fait, on y a déjà joué deux, trois fois, je crois, trois,
D'accord.
quatre fois même. Bah, c'est oui, c'est un truc, c'est incroyable évidemment, parce que quand tu connais l'histoire de cet endroit, c'est vrai que ça fait rêver quand t'es gamin, tu vois qui a joué
Bah
là-bas. Donc forcément, oui, ça fait un petit truc, quoi. Après, c'est génial, c'est super roots, c'est à l'ancienne, tout ce que j'aime vraiment. C'est
C'est-à-dire, tu veux dire quoi?
Bah, c'est pas un lieu aseptisé, tout beau, tout propre, tout nickel. C'est du matos un peu déglingos, mais c'est cool. C'est à l'ancienne, puis c'est une super ambiance. Les gens sont là, ils sont super contents d'être là et toujours un super public. Non, c'est vraiment bien, quoi. Une belle expérience de jouer là-bas et puis même d'aller voir des concerts parce qu'il se passe des choses incroyables. Tu vois tout le monde là-bas, quoi.
Ouais.
Tous les gars qui sont pas en tournée, ils jouent là. Donc c'est un bel endroit, quoi.
Ouais, je pense que la veille ou le lendemain, il y avait Mike Landau qui jouait. Enfin bref. Et bon, non seulement tu as joué au Baked Potato, mais au Baked Potato pendant le NAM, où là, tu as tous les cadors, etc. Et en plus, enfin, au niveau public, ça doit être l'enfer, les gens dans le public, non?
Bah, c'est pas mal blindé. Bon, après, c'est beaucoup de guitares geeks
Bah ouais.
qui viennent voir Scott, mais
D'accord.
nous, je
Il n'y a
pense
pas de basse
qu'ils
geek.
s'en foutent un peu.
Ouais.
Bon, si, sûrement, si, un petit peu. Mais ouais, c'est vrai que c'est bien à cette époque de l'année, parce qu'évidemment, il y a plein, plein de monde. On fait deux sets avec deux publics différents et blindés à chaque fois. Donc, ça fait plaisir. Mais on y avait joué en avril, bah, peu de temps après que je sois venu ici.
Ouais.
Mais c'est pareil, on avait fait deux soirs, c'était plein aussi. Donc, ça dépend pas vraiment de la période, quoi. Donc, c'est cool, c'est un lieu qui vit plutôt pas mal, ouais.
Ouais. Moi, j'ai bien envie d'y aller. Et
Bah,
c'est vrai
vas-y.
que Scott Anderson, dans le podcast que je recommande chaudement, qui s'appelle Guitar Wang, qui co-anime avec Troy McCubbin, que j'avais interviewé d'ailleurs au NAMM, et puis Bruce Forman, il dit que, bon, il habite à Los Angeles, Scott, mais en fait, il y joue très peu, sauf deux, trois fois par an, effectivement, au Baked Potato, ce qui fait que quand il y joue, bon, bah, y a du monde, quoi.
Même pas deux, trois fois, hein, là,
Ouais.
il n'y a pas joué depuis janvier, tu vois. Et
Donc une fois, quoi.
aucune fois, voilà, c'est ça. Quand on est là, mais espérons que là, ça se fasse un peu plus souvent, vu qu'on bosse sur notre visa, donc on va pouvoir aller là-bas plus régulièrement et travailler officieusement, sérieusement.
Bah oui, je me rappelle que lors de la première interview, je t'avais posé la question justement de comment on fait pour jouer là-bas. Donc, tu étais en clandestin avec une fausse moustache, etc. Et là maintenant, il a un nom spécial, le visa d'artiste, je sais pas quoi. Là.
Ouais, il faut être un individu avec des qualités extraordinaires.
Ah ouais, tout toi, oui. Quoi.
Oui, complètement. Bah ouais. Non, mais voilà, donc c'est vrai que ça va être mieux si on a ça. Mm-hmm. Et pouvoir jouer aux États-Unis, pas qu'à Los Angeles, quoi. Ouais. Parce que Scott, il attend maintenant qu'on ait ce truc-là pour pouvoir chercher ailleurs.
D'accord.
Donc on le fait parce que justement, là, il y a des options pour jouer un peu ailleurs dans les États-Unis. Donc voilà, on va faire ça bien.
C'est cool. Ce genre de musique, quand on la joue en Italie, en France, à Los Angeles, etc., est-ce que la réception, ou même en Asie, en Amérique du Sud, est-ce que la réception du public est différente ?
Oui, un peu. Alors en France, on a peu eu d'expérience parce qu'on n'y a pas beaucoup joué, mais on y a joué quand même cet été, dans le super festival de Jean-Marie Ecaille.
Guitare. J'ai failli y aller en plus à Biarritz.
Ouais, Guitare Andai. Et c'était extraordinaire. Vraiment un super public, super ambiance, super festival que je recommande à tous d'y aller, vu la qualité de la programmation et la qualité de l'accueil. Mais sinon, public en Asie, le public est vachement bien, assez réactif. En Italie, vu qu'ils parlent tout le temps pendant qu'on joue, on ne sait pas trop.
D'accord.
Mais je crois que ça va, puisqu'on y joue quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Okay. Ils parlent tout le temps, tu joues, puis ils parlent tout le temps.
Oui, oui. Quand on joue fort, on ne les entend pas, mais quand tu fais un petit solo de basse tout doux et que tu entends parler, tu te dis que, voilà, tant pis. Et aux États-Unis, ils sont à fond aussi. Ils aiment la musique, quoi. Les gens, ils viennent pour écouter la musique, donc voilà. Enfin, ça veut pas dire que les Italiens n'aiment pas la musique, mais ils aiment bien parler, tu vois.
Bah ouais, pourquoi ils s'arrêteraient de parler pendant un solo de basse ? Non, mais franchement, quoi, tu vois. À part ce volet Scott Anderson qui t'occupe quand même pas mal, c'est quoi tes projets en ce moment ?
Eh bien, en ce moment, avec mon comparse, Archibald Ligonnière, on est en train de faire un album.
Le batteur.
On est en train de faire un album avec Benjamin Petit au saxophone.
D'accord.
Et pas mal d'invités, dont Scott, qui fait un solo sur un morceau.
Génial.
Donc, on a écrit tous un peu de la musique.
Ça va être quel style ?
C'est un peu plusieurs influences réunies. Benjamin Petit, saxophoniste, qui est plus vers le... plus branché dans le style jazz, plus traditionnel, mais qui est quand même vachement ouvert à plein d'autres styles. Voilà, Archie, qui est vachement, moitié fusion, un peu pop, jazz et tout, et moi qui suis un peu jazz, fusion aussi, et le reste, pop aussi. On a tous écrit des trucs, et que, voilà, on essaie de mettre ensemble pour que ça ait une petite cohérence. Mm-hmm. Et donc, je disais, il y a pas mal d'invités, il y a des chanteurs, Scott... Et voilà.
Scott vient chanter ?
Non, Scott va pas chanter, non. Il a fait un très beau solo de guitare. Et donc voilà, on est en train de le terminer là.
Et donc calendrier, ça sort quand ça ?
Ah ça, on sait pas encore. Là, ça va être, y a rien de mixé. Il y a encore des enregistrements à faire. Mm-hmm. Mais ça va être
septembre, début juin, quoi.
C'est ça. Non, ce serait bien début de l'année prochaine. Mm-hmm. Peut-être fin d'année, je sais pas, décembre, je sais pas. Mm-hmm. Tout dépend de la vitesse à laquelle les choses vont.
Mm-hmm. D'accord. T'as ta superbe jazz bass à la main. Est-ce que t'es capable, toi, de me dire ou de me faire entendre ce que t'as identifié comme étant l'ADN de Romain Labaye, tu vois ? C'est quoi une ligne de basse comme toi tu fais ? Des choses que t'as pu identifier et dire, ah bah tiens, ça, je l'ai pas piqué ni à McCartney, ni à un tel, ni à un tel. C'est Bibi.
Bonne question.
C'est dur, ça, hein ?
Ouais, c'est une question un peu méchante. Mais... Je réfléchis pas trop, en fait. Je t'avoue que je réfléchis pas trop. Après, je cherche pas non plus obligatoirement à faire cette ligne de Pastorius sur tel morceau, cette ligne de McCartney sur tel morceau. Je crois que j'ai fait un gros mix de tout ce que j'ai pu emmagasiner au fil du temps et de faire ma sauce. Mais évidemment, il y a toujours des petits trucs qui ressortent, qui te trahissent.
Ouais.
Mais j'ai pas une définition d'une ligne de basse en particulier, tu vois. Après... il arrive souvent que j'ai une ligne de basse écrite à jouer, notamment avec Scott, où il y a des trucs où je peux pas trop me barrer. Mais sinon, ouais, je sais pas, je fais une synthèse un peu de tout ça, de tout ce que j'ai appris.
D'accord. J'essaie de me démener pour le faire jouer, mais j'arrive pas à lui faire sortir une note.
T'es dur, là.
Ah, c'est beaucoup plus cher.
Ouais, bah oui.
Alors, prenons un autre angle. Donc, tu as cette jazz basse.
Voilà.
C'est quoi les différentes couleurs que tu utilises avec ce que tu as plus t'as deux, c'est deux micros, hein, c'est bien ça. Donc c'est quoi, c'est toujours réglé pareil ou tu varies?
Ça dépend. Pour des lignes de basse un peu plus groove et tout ça, enfin un truc efficace, j'utilise souvent les deux à fond en fait.
D'accord.
Tu vois, okay. Les deux à fond. Quand c'est un truc un peu plus pointu où tu vas avoir un peu plus de définition, je retire un peu du micro micro-manche pour plus de définition, ou même pour les solos. Parce que faire des solos avec les deux micros à fond, je suis pas à l'aise, j'aime pas trop le son que ça fait. C'est pas assez précis selon moi. J'aime bien quand c'est un peu clair quand même.
D'accord. Et donc ça se confirme que les bassistes sont très monogames en fait. Monogames dans le sens pas tu sais jouer qu'une seule gamme, mais dans le sens où tu joues qu'une seule basse. Je voulais pas t'insulter, hein, vraiment. Hein.
Moi je joue qu'une seule gamme aussi. Mais si j'ai plusieurs basses, oui j'ai plusieurs basses. Mais c'est vrai que c'est celle-là que j'utilise la plupart du temps parce que what else?
Ouais.
Tu vois. Mais non, mais sinon après ça dépend des projets. De temps en temps, j'ai envie de me faire un kiff et je prends une autre basse. J'ai une petite Music Master qui est vachement sympa.
D'accord.
Pour
short scale, genre.
Oui.
C'est vrai.
Pour les trucs un peu plus, tu vois, un peu plus la James Brown ou les trucs comme ça, funk, c'est vachement bien, quoi. Mmh. Ça rappelle un peu la précision. Donc comme j'ai pas de précision, je prends ça des fois. Et puis j'ai la Hofner, évidemment.
Ouais, évidemment. Ouais.
Pour tous les projets plus pop ou rock. Bah, je prends ça parce que c'est génial. C'est juste une des meilleures basses qui existent.
Ah ouais?
Ah oui, tu demandes à Laurent David, il est d'accord. Hein.
Ça, j'en ai aucun doute, ouais, ça c'est sûr. Ouais. En parlant d'Hofner, je crois que tu étais allé voir McCartney quand il est passé il y a quelques mois maintenant.
Ouais, hein. En novembre.
T'es quand?
Si tu veux que je te dise, exceptionnel à chaque fois. Je l'ai vu 6 ou 7 fois, je crois.
D'accord.
Et oui, c'est l'histoire. Mmh. C'est... tous les gens qui disent ouais, faut qu'il arrête, c'est bon, il y en a marre des Beatles. Non, en fait, faut pas qu'il arrête tant qu'il peut, il faut qu'il continue. Parce que c'est une baffe dans la gueule à chaque fois. C'est juste le gars qui a écrit toutes ses chansons devant toi et avec un groupe derrière absolument phénoménal. Il n'y a rien à dire, quoi. Et c'est une dose de bonheur à chaque fois que je vais le voir. Et voilà, s'il passe un de ses jours, n'hésitez pas, quoi, parce que c'est une leçon. Et le mec, ça joue. Ça rigole pas une seconde, quoi. La basse, les lignes de basse qu'il écrivait pour les Beatles, il les joue en live aussi et il les a pas simplifiées.
Il chante par-dessus.
Et il chante en plus, tu vois. Il joue de la guitare, il joue le piano, il joue tout. Mais bon, non, c'est un truc de dingue. C'est vraiment... Mais je suis fan, donc tu vois. Bon,
Ouais, non, ça vante pas. Mais comme j'avais vu que tu étais allé le voir, je me dis, tiens, je lui pose une question par rapport à McCartney. Parce qu'il y a des artistes qu'on va voir parce qu'on les aime toujours, bon, parce qu'on a cette certaine tendresse, mais en fait, on est un petit peu complaisant. Là, tu kiffes toujours autant, toi. Tu vois, moi, par exemple, je suis un méga fan de ZZ Top. Je pense que les 2-3 dernières fois où je les ai vus en concert, franchement, j'ai pas trouvé ça bon, quoi.
Non, moi, je suis jamais déçu. Ouais. Jamais, non. Je sais bien qu'il chante plus comme avant, mais je veux dire, le gars, il a 77 maintenant. Il fait 3 heures de concert. Tu ressors de là, t'as la banane. Et comme je dis, ça joue, le son, c'est mortel. Tout, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est un show parfait, début à la fin. Quoi. Ah ouais, c'est magique.
Génial. Parle-nous un peu des jams dans lesquels tu es impliqué à Paris.
Ben ça dépend des périodes. Ça m'arrive, ce soir, je rejoue au Baiser Salé avec François Constantin, Roger Biwandou, Vincent Bidal et Benjamin Petit. Bon, la date sera passée quand les gens verront, mais on s'en fout. Mais disons que c'est la plupart du temps, c'est ça. C'est soit les jams de François Constantin au Baiser Salé ou des jams au Caveau des Oubliettes. Mais principalement, c'est ça, ouais. J'en fais plus autant qu'avant.
Et c'est important pour toi d'aller comme ça croiser le fer ou de jouer, de rester au contact, hein, de jouer tout court, en fait. Hein.
Bah après, oui, je pensais que tu parlais de faire les jams en tant qu'ouverture de jam avec un
groupe. Les deux.
Groupe. Ouais. Mais aller jammer, oui, j'y vais de temps en temps quand j'ai un peu la motivation et le temps.
Ouais.
Mais c'est vrai que oui, c'est toujours sympa d'aller faire le bœuf. Quand il y a une équipe sympa en plus, c'est toujours cool de voir les copains et d'aller jammer un peu avec eux.
Bon, génial. Bah écoute, Romain, j'espère, on peut toujours rêver que la prochaine fois, tu viendras ici en interview et puis j'aurai Scott d'un côté et puis toi de l'autre, ça serait pas mal, ça aurait de l'allure, ça.
Ça serait cool, oui, faut juste qu'on ait des dates à Paris. Et
voilà.
Le problème, je crois qu'on avait parlé à l'époque déjà de l'autre interview. N'hésitez pas, hein. Voilà. S'il y a des salles, franchement...
faites-vous connaître.
Bah oui, parce que ça devient un peu ridicule de tourner partout dans le monde et de pas venir une seule fois à Paris, alors qu'on est, il jouait avec deux Français. Je sais pas trop, j'ai pas la clé, j'ai pas la solution.
Bah écoute, souhaitons que 2019 ou 2020 soit l'occasion de vous voir tous les trois à Paris. Bah écoute, merci beaucoup Romain, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.
Alors. Yes, merci Pierre.
Allez, ciao.
Ciao.